2030, temps universel Afrique Midi, présenté par Sébastien Duhamel.
Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et ce numéro de téléphone, vous le connaissez évidemment par cœur. Désormais, retenez un autre numéro. C'est le numéro WhatsApp de l'émission. Alors, il est pas évident à retenir, pour être très honnête. Donc, je vous conseille de le noter et de l'enregistrer sur votre téléphone. C'est le 33 6 89 28 53 64. 33 6 89 28 53 64. Je vous l'ai annoncé il y a moins d'une demi-heure. Il y a déjà eu quasiment 200 réactions sur le WhatsApp de l'émission. Donc je vois que vous êtes fidèles, nombreux au rendez-vous. Rejoignez donc la communauté d'appel sur l'actualité sur ce réseau social, le réseau WhatsApp. Je compte sur vous pour faire passer évidemment l'information au sein de vos camarades, de vos amis, de vos collègues de travail. N'hésitez pas, ce numéro de téléphone 33 6 89 28 53 64. C'est la libre antenne, 20 minutes pour revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. Vous êtes nombreux à commenter la campagne électorale en République démocratique du Congo en vue de la présidentielle du 23 décembre. Une campagne émaillée de violence. Ces trois derniers jours, au moins 6 personnes sont mortes dans des échauffourées entre militants des partis de l'opposition et forces de l'ordre. Gustave, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez contacté de Lubumbashi et vous souhaitiez profiter de la libre antenne pour témoigner des incidents de mardi dans votre ville.
Absolument, Juan.
On vous écoute.
Merci. Ce jour-là, je vous dis sincèrement que j'étais en train d'assister au requiem de la démocratie dans mon pays. J'étais sur la route Likasi qui relie la ville à l'aéroport de la Loano. J'ai rencontré le cortège de Fayoulou. Le cortège était bien aligné, assidûment aligné. Et tout d'un coup, j'ai vu les véhicules de la police venir dans le sens inverse, obligeant tous les véhicules qui étaient sur l'artère à se ranger de côté, sous la bretelle. Et moi avec. Et j'ai assisté à une scène terrible. J'ai vu gazer le cortège. J'ai vu tirer à balles réelles. J'ai vu l'eau chaude déversée sur le cortège alors qu'il n'y avait aucun débordement. Moi, je n'ai pas compris.
Alors, les forces de l'ordre, vous parlez d'eau chaude, les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau. D'ailleurs, c'était une eau colorée, il me semble, une eau de couleur bleue.
Oui. Bleu,
voilà, qui est censé permettre de repérer les manifestants une fois la foule dispersée. C'est une technique qui est utilisée dans plusieurs pays. Les forces de l'ordre ont également utilisé des gaz lacrymogènes sur la foule et sur le cortège de l'opposant Martin Fayoulou. Vous parlez de tir à balles réelles, les autorités démentent.
Absolument, elle ne peut que démentir, mais c'est pas la première fois que cela arrive. On n'est pas surpris de se démentir, mais je vous dis sincèrement que c'est quelque chose qui... Moi, j'ai garé mon véhicule à côté du cortège de Fayoul. Je venais dans le sens inverse. Et ce que j'ai vu, je vous dis sincèrement que je n'avais jamais vu ça avant, c'est vraiment le requiem de la démocratie dans mon pays.
En tout cas, les réactions internationales sont nombreuses pour tenter de faire baisser la tension, notamment Human Rights Watch qui appelle l'ONU à protéger durant la campagne électorale les civils, mais aussi les candidats. Vous auriez souhaité que l'ONU, la MONUSCO, puisse intervenir justement pour essayer de calmer la tension à ce moment-là, Gustave?
Absolument. Il faut qu'il y ait une intervention extérieure, neutre, de manière à rétablir l'ordre. Sinon, nous allons vers le chaos.
Restez en ligne, Gustave. Christian, lui, nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous souhaitiez également réagir sur ces violences qui émaillent la campagne électorale. Je le disais, au moins 6 morts confirmées ces 3 derniers jours dans les villes de Kalemi, Lubumbashi et hier à Mbujimayi. Et vous aviez envie, comme Gustave et d'autres auditeurs, de prendre la parole.
Oui, justement, la première question que je me pose, c'est celle de savoir Dans quel pays on peut empêcher la police à faire son travail? La police est là pour sécuriser les biens et les personnes. Et lorsque vous vous entêtez devant la police, mais la police va redoubler d'ardeur, soyez-en sûrs. Parce que au moins la police connaît la situation sécuritaire et vous donne des orientations. Suivez ces orientations, c'est la moindre des choses. Deuxièmement, j'ai entendu mon frère qui venait de parler tout à l'heure et évoquer la question de l'intervention de la MONUSCO. Enfin, ça fait combien de temps que la MONUSCO est dans notre pays? Et il s'agit de combien d'hommes? Mais pour autant, la situation n'a pas fondamentalement changé. Et donc, il faut qu'on arrête de nous distraire avec cette histoire de la MONUSCO. Maintes fois, j'ai intervenu sur les antennes de la RFI.
Oui.
Et j'avais insisté sur le fait que la MONUSCO doit entamer le processus de son retrait
d'accord.
En République démocratique.
Alors, c'est un autre débat, Christian, si vous le permettez. Ce n'est pas de la censure, mais là, on parle de la campagne électorale, des incidents de ces derniers jours. Gustave, Christian, on va accueillir Dodi dans un instant. Christian, comment réagissez-vous à cet incendie survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans votre ville à Kinshasa, dans le principal entrepôt de la commission électorale? On nous dit que 80% du matériel électoral destiné à la capitale est parti en fumée.
Oui, c'est malheureux que l'argent du trésor soit parti en fumée comme ça, alors que les Congolais attendent de pied ferme les élections. Moi, je veux peut-être donner une réaction de sagesse, c'est qu'il ne faut pas s'alarmer outre mesure, parce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle s'il s'agit d'un incendie criminel ou pas.
Oui, enfin la piste criminelle est privilégiée par les autorités. Certains parlent d'un accident, les autorités parlent d'un incendie criminel. Ne raccrochez pas, Christian, et quand vous dites voilà, il faut un message optimiste au sein de la population, cet incendie ravive les craintes autour d'un éventuel report du scrutin présidentiel prévu dans 10 jours maintenant. Dodi, dans 9 jours pour être très précis. Dodi, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous souhaitiez également réagir à cet incendie?
Oui, tout à fait. Mais permettez, Juan, que je présente d'abord mes condoléances à toutes les familles qui ont eu des victimes, de Kalemie, Lubumbashi et Mbujimayi. En ce qui concerne de l'incendie, on se pose quand même plusieurs questions quant à l'endroit où se trouvait le matériel de la Commission nationale électorale indépendante. C'est un endroit hyper protégé. Bon, bien sûr, c'est vrai que l'enquête va pouvoir déterminer par la suite les responsabilités, mais moi, je souhaiterais que ce soit une enquête véritablement indépendante. Parce que moi, je pense que ceux qui ont eu à faire ça sont ceux qui ne veulent pas qu'il y ait des élections, et on peut en trouver dans tous les camps. Mais moi, je privilégie beaucoup plus ceux du camp au pouvoir. Parce qu'avec ce qui vient de se passer lors de la campagne à l'Est, et les précédents qu'il y a eu au niveau de Kindu, Lubumbashi, Kalemie, et même Mbujimayi, moi j'ai des raisons de penser que c'est au niveau de certaines personnes au gouvernement qui ne veulent pas qu'il y ait des élections et qui créent cet incident-là inutilement.
Oui, alors vous parliez de l'endroit hautement sécurisé. C'est vrai que on s'interroge, et la population s'interroge, surtout comment un tel incident a-t-il pu être déclenché alors qu'on est à moins de 200 mètres du plus grand camp militaire de Kinshasa. Vous pointez du doigt le pouvoir, en tout cas ceux qui au sein du pouvoir ne voudraient pas qu'une élection se tienne effectivement le 23 décembre. La coalition au pouvoir, elle accuse clairement un opposant, hein, Martin Fayoulou, d'être responsable de cet incendie à travers les propos qu'il tient, puisque il appelle ses sympathisants à détruire le matériel électoral pour empêcher la commission d'organiser donc ces élections. Christian, vous souhaitiez rebondir?
Oui, justement. D'ailleurs, vous avez éclairé un tout petit peu ma lanterne, parce que il y en a parmi les acteurs politiques congolais et qui font l'apologie de la violence. Et depuis qu'ils ont commencé leur campagne, ils prennent des menaces sur les machines à voter. Et voilà, curieusement, l'entrepôt qui a été incendié, n'est-ce pas, contenait 8000 machines à voter.
Exactement.
Et donc, ceux qui estiment que ça soit Fayoulou ne peuvent pas avoir tort sur toute la ligne.
Oui, enfin, le pouvoir cite Martin Fayoulou à travers ses propos. Du côté de l'opposition, Félix Tshisekedi, lui, dénonce un sabotage du régime, mais il met en cause également Martin Fayoulou à cause de ses propos qu'il qualifie de troubles, puisqu'il appelle Félix Tshisekedi, à casser ces machines électorales dénoncées par une partie de l'opposition. Le débat est loin d'être clos. Dodi, Christian, Gustave, merci à tous les trois. Désolé pour tous ceux qui nous ont appelés de la République démocratique du Congo, mais je vous le garantis, nous aurons l'occasion de revenir sur cette campagne électorale la semaine prochaine. Autre sujet qui vous intéresse, vu le nombre de commentaires postés sur la page Facebook de l'émission, le nombre d'appels reçus, le procès de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, va-t-il bénéficier de la liberté provisoire en attendant la fin de son procès? Le verdict est attendu ce matin, puisque l'audience doit reprendre dans une dizaine de minutes maintenant à La Haye, à la Cour pénale internationale. Camille, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Abidjan, et pour vous, il n'y a pas de doute, Laurent Gbagbo doit bénéficier de la liberté provisoire.
Oui, tout à fait. Ouais. Pour moi, je pense qu'il doit bénéficier de cette liberté provisoire là, simplement parce que voilà, Laurent Gbagbo en 2010, c'est 45% de l'électorat ivoirien. Même si on sait que ces chiffres ont été fabriqués et qu'ils sont loin de la réalité, je pense que aujourd'hui, Laurent Gbagbo qui a été présenté comme celui-là qui empêche la paix, le fauteur de troupes, est retrouvé à La Haye depuis 7 ans. La Côte d'Ivoire n'a toujours pas cette paix là. Elle est loin de cette réconciliation recherchée. La preuve, on a vu ce qu'on les élections dernières ont donné, les élections municipales avec tout ce qu'il y a eu comme accord. Donc je pense que la libération de Laurent Gbagbo sera vraiment un signal fort. Mmh. Ce sera une réponse à cet appel en écho lancé par toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on voit que tous les opposants à Laurent Gbagbo hier, qui s'étaient coalisés dans le cadre des RHDP, appellent à sa libération.
Donc vous dites, Camille, je vous écoute attentivement, vous dites que la libération de Laurent Gbagbo permettra de réconcilier la nation ivoirienne.
Ben, tout à fait. Tout à fait. Pour ceux qui sont issus de l'actualité ivoirienne, parce que Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui a été en avant-garde du combat pour la démocratie et pour le respect des libertés.
Oui, enfin, il est poursuivi pour crimes contre l'humanité pour les violences post-électorales de 2010-2011. Camille, restez en ligne. Autre auditeur de Côte d'Ivoire, d'Abidjan exactement. Bonjour Abdoul.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Alors vous avez une analyse totalement opposée de celle de Camille, puisque vous redoutez une éventuelle liberté provisoire de l'ex-président.
Exactement Juan, et pour moi en tant qu'Ivoirien Juan, il faut le dire, hein, le cas Laurent Gbagbo pose un sérieux dilemme entre le juridique qui se joue en ce moment à La Haye et les répercussions sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Et comme mon prédécesseur vient de le dire, les traces de la guerre sont encore présentes et surtout dans les cœurs. Alors, pour moi, au plan sociopolitique, en Côte d'Ivoire, je pense que la mise en liberté même provisoire de M. Laurent Gbagbo en croit à la posture actuelle, belligérante actuelle de ses partisans, n'est pas... Allô ?
Oui, je vous écoute attentivement, Abdoul.
Voilà. En croit donc, je disais, la posture belligérante des partisans de M. Laurent Gbagbo n'est pas forcément une bonne chose pour la stabilité du pays. Mmh. Et car je vois dans le camp Gbagbo des personnes vraiment revanchardes, comme si la guerre n'avait pas servi de leçon. Et je me demande parfois sur qui on veut prendre sa revanche. Mmh. Et vous savez, Juan, hier, vous aviez une opposition. Les gens du pouvoir aujourd'hui étaient à l'opposition avec la sympathie et d'une rébellion qui a réussi à défaire toute une armée. Aujourd'hui, que ces personnes sont au pouvoir avec les moyens de l'État, moi, je ne sais pas quelle revanche on peut prendre si ce n'est nous entraîner dans un chaos.
Donc, vous redoutez finalement une certaine vengeance si toutefois Laurent Gbagbo bénéficie d'une liberté provisoire. On suivra évidemment la décision de la Cour pénale internationale, théoriquement dans la journée. Et quoi qu'il arrive, on prolongera le débat lundi matin. Vous pourrez commenter le verdict de la CPI. Soit Laurent Gbagbo bénéficiera, comme le souhaite Camille d'Abidjan, de la liberté provisoire, soit au contraire, contraire, il restera donc en prison à La Haye jusqu'à la fin de son procès, et vous pourrez évidemment commenter les arguments aussi bien du procureur qui lui s'y oppose, et voilà, il s'y oppose clairement, ou les réactions et les propos des avocats de Laurent Gbagbo. Il est 9h55 à Paris, il nous reste à peine 5 minutes pour parler d'un sujet sur lequel vous êtes des centaines à souhaiter réagir, c'est celui de la Coupe d'Afrique des Nations, avec cette question évidemment, où se tiendra la prochaine CAN après le retrait de l'organisation au Cameroun. Toussaint, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour le monde entier.
Vous êtes à Libreville au Gabon, le Maroc a fait savoir qu'il n'était pas intéressé pour accueillir la CAN en juin prochain. En tout cas depuis hier, l'Égypte et l'Afrique du Sud ont fait acte de candidature et vous souhaitiez réagir justement sur ces deux pays.
Oui, c'est deux très bons candidats. Ils ont les capacités infrastructurelles, organisationnelles, et ils ont de l'expérience en la matière. Chacun ayant déjà organisé, l'Afrique du Sud a même organisé une Coupe du Monde. Donc, vous comprenez bien qu'on n'a pas de souci d'endroit où va se tenir la prochaine Coupe d'Afrique. Ce que je veux préciser, c'est qu'il faut qu'on arrête avec la culture de la médiocrité. Un pays qui doit organiser la Coupe du Monde en juin me dit qu'en décembre, ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas normal. C'est pas parce que ça s'est déjà passé comme ça dans un autre pays par le passé qu'on doit continuer dans la médiocrité. Mmh. 6 mois avant une compétition, le pays qui organise doit être prêt. Sinon, c'est pas la peine.
Ouais. Enfin, prenez le cas du Maroc. Le Maroc dit « Nous n'allons pas faire acte de candidature car, en substance, on ne s'improvise pas organisateur d'une Coupe d'Afrique des Nations à seulement 6 mois du coup d'envoi de la compétition. »
Vous savez très bien.
Donc, quid de l'Afrique du Sud et de l'Égypte? Oui, ils ont des stades. Oui, ils ont déjà organisé des événements importants. Mais peut-on sérieusement organiser une compétition en prenant à bras le corps le dossier, le sujet, seulement 6 mois avant?
On le peut, parce qu'il y a des cas jurisprudentiels. La Guinée équatoriale a récupéré une Coupe d'Afrique. Mmh. Le Ghana et le Nigeria ont récupéré une Coupe d'Afrique en 2000.
Oui.
Ça, c'est déjà fait.
Ça, c'est déjà fait, mais à l'époque, c'était 16 équipes. Et désormais, elles seront 24 à se rencontrer lors de ce tournoi. Tony, bonjour.
Bonjour, Yuan.
Vous nous appelez d'Alger. Vous partagez le commentaire de Toussaint à l'instant.
Bon, déjà, je vais revenir sur ce qui est en train de se passer. Vous savez, il y a des Africains qui, généralement, ils sont en Afrique, mais ils vivent comme s'ils sont sur un autre continent. Monsieur Toussaint parle de médiocrité. Écoutez, en ce moment, vous êtes sans dire que les pays africains, il y a un certain nombre de difficultés qu'ils traversent. Demandez à un pays comme le Cameroun, par exemple, d'organiser, à quelques mois après avoir donné l'organisation à 16 équipes au Cameroun, revoir ces 16 à 24 et exiger que le Cameroun soit prêt 6 mois avant. Moi, je pense sincèrement que la médiocrité vient de la CAF.
Ouais. Enfin, excusez-moi Tony, je me fais l'avocat de la Confédération africaine de football puisque vous l'accusez. Le Cameroun n'aurait pas pu dire à ce moment-là, lorsque le règlement a changé, dire attendez, nous on a signé pour accueillir 16 équipes et non 24. Est-ce qu'on ne peut pas reporter cette nouvelle formule à une prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ou est-ce qu'on ne peut pas à ce moment-là essayer de trouver un pays tiers pour nous aider à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations? On aurait pu imaginer Cameroun, Ghana, Cameroun, un autre pays, enfin je ne sais pas, mais le Cameroun aurait pu émettre des réticences. Ça n'a pas été le cas. Le Cameroun a bombé le torse en disant « nous serons capables de l'organiser ».
Oui, ce que vous dites, c'est une possibilité. Simplement, en ce moment, en Afrique, il y a maximum 4 à 5 pays capables d'organiser une Coupe d'Afrique dans le nouveau format, c'est-à-dire 24 équipes. Il y a les pays du Maghreb et l'Afrique du Sud. Aucun pays, à l'heure que nous parlons, n'est capable, aucun pays d'Afrique noire, en dehors de l'Afrique du Sud, n'est capable d'organiser sous ce nouveau format. Bon, maintenant, il faudrait que la CAF comprenne qu'elle doit être plus souple, afin que les autres pays puissent se mettre à la hauteur de ces pays maghrébins. Il faut être plus souple.
Plus souple. Mais enfin, en même temps, la CAF veut être plus professionnelle et en finir avec ces organisations de Coupe d'Afrique des Nations à la dernière minute. Voilà, tout le monde a besoin de prendre le temps, les constructeurs, les opérateurs financiers. Bref, le sujet est loin d'être clos. On aura l'occasion d'y revenir là aussi dans le courant de la semaine prochaine. Merci à tous de votre fidélité. Excellente fin de semaine. Je vous laisse.